qui nous importe, c'est l'histoire. La grande, avec un H majuscule.
La Révolution anglaise, 1640-1649.
Sous le nom de Puritain, les conseillers de Sa Majesté désignent tous ceux qui veulent conserver les lois et les libertés du royaume. Ces Puritains, quels sont-ils, nous, messieurs ? Nous, les membres de cette Assemblée, pour ces mauvais conseillers, les Puritains doivent être extirpés par la force ou chassés par la crainte.
Le roi Charles Ier, dès son accession au trône en 1625, pensait que l'avenir en Angleterre était à la monarchie absolue. Mais ses vues, empruntées à la France ou à l'Espagne, ne purent s'imposer. Le passé anglais lui résista, réincarné notamment par les Puritains. La géographie aussi le contraria. Il régnait en effet aussi sur l'Irlande et l'Écosse qui le tiraient à U et à Dia. Écartelé de son vivant, oui, il faut que j'en vienne à sa mort, il fut décapité en 1649. La République ne dura pas, ce qui ne veut pas dire que la Révolution fut sans suite. Elle prit tout son sens progressivement, avec une autre Révolution en 1688, moins heurtée, plus glorieuse, et qui écarta définitivement les Stuarts, avec surtout, au XVIIIe siècle, la Révolution américaine et la française. C'est à l'aune de ces dernières qu'on la lit dorénavant. Pour nous, Français, elle demeure très singulière. C'est en effet la religion, en l'occurrence le protestantisme radical, qui a permis le passage à l'émancipation politique. Et cela continue de faire énigme pour nous. Néanmoins, pour nous et pour les Américains, elle est à l'évidence pionnière. Elle a ouvert la voie au système parlementaire et même d'autres chemins plus pentus à la démocratie.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Bernard Cotteret, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Le dictionnaire des protestants qui paraît aux éditions de Paris, le premier volume à la lettre C, dit que vous êtes un historien prolifique, infatigable de l'Angleterre. Il n'a pas eu connaissance de votre dernier livre qui s'intitule « La Révolution anglaise » et qui paraît chez Perrin. Alors cette révolution, vous la situez, Bernard Cotteret, dans une moyenne durée. Nous, on va y découper, si vous le voulez bien, une tranche vive de 10 ans à partir de l'an 1640. 1640, le roi Charles Ier règne depuis une quinzaine d'années.
Oui, la décennie la plus radicale est effectivement celle qui sépare la convocation du Parlement en 1640 de la mort de Charles Ier en 1649.
Mais avant, il règne sur... C'est très important, le sous-titre de votre livre, c'est un défi britannique à la fois sur l'Irlande, sur l'Angleterre et sur l'Écosse. Ah, l'Écosse. L'Écosse,
oui,
qui est d'actualité.
L'Écosse qui est d'actualité.
Au moment des élections anglaises de cette année.
L'Écosse qui menace en permanence de faire sécession. Et effectivement, le pari qui a été celui de la monarchie au XVIIe siècle, c'était de fusionner ces trois royaumes en un seul. Et ils ont échoué. Ils ont échoué, mais c'est la République avec Cromwell qui a réussi.
Première question, le roi peut-il devenir un roi absolu à terme en Angleterre ? On est en 1640, on est après 15 ans de règne. Sur ces 15 ans de règne, 11 ont été sans parlement. Mais oui, mais il y a quand même ce qu'on appelle en Angleterre la common law, qui vient du fond des âges, de la nuit des temps, d'avant même la conquête normande, et qui alimente le thème des libertés.
Oui, quand on se situe en 1625-1630, on ne sait pas en réalité si ça n'est pas la monarchie absolue qui va l'emporter. Elle l'a emporté en France, elle l'a emporté en Espagne, et rien ne permet de penser qu'elle ne va pas l'emporter aussi en Angleterre. Et donc Charles Ier est convaincu qu'il va pouvoir régner en fait sans corps intermédiaire, ou pratiquement sans corps intermédiaire, c'est-à-dire en ne convoquant plus le Parlement, et il cesse de fait de faire appel au Parlement de 1629 à 1640, et là il ne fait appel au Parlement que contraint et forcé.
Une autre question qui se pose en 1640, avant qu'on ne commence la décennie vive, un roi d'Angleterre doit-il être très protestant ? Lui, il est marié à une catholique, la fille
d'Henri IV. Oui.
Et il n'y a pas que des anglicans dans son royaume d'Angleterre. Il y a des catholiques et puis il y a des protestants d'un type radical.
Oui, effectivement, ce qui s'est passé avec la réforme du XVIe siècle, c'est qu'on a fait éclater un certain nombre de barrières qui tenaient les fidèles, et qu'on ne sait pas exactement quel régime ecclésiastique va succéder. Alors, on fait un premier essai à partir du XVIe siècle, qui est un essai entre guillemets conservateur, en maintenant en particulier des évêques, en maintenant l'épiscopat, et vous connaissez la phrase célèbre du père de Charles Ier, Jacques Ier, qui disait « S'il n'y avait pas d'évêques, y aurait-il encore des rois ? No bishop, no king. » Et il avait raison.
Alors ça, c'est le protestantisme vu d'en haut, mais il y a un protestantisme vu d'en bas, qu'on nomme le protestantisme des puritains.
Les puritains, en réalité, le terme est souvent utilisé de façon abusive. Le terme puritain a un sens très précis dans le cas de l'Angleterre du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'un puritain ? C'est quelqu'un qui souhaite purifier deux choses. D'abord, purifier la doctrine, c'est-à-dire avoir une doctrine plus proche de l'enseignement évangélique. Ça, c'est le vieil idéal réformateur. Et deuxièmement, qui souhaite aussi une purification éthique, une purification des mœurs.
Et ces puritains sont volontiers critiques du roi. Dernière question. Toujours à la hauteur de 1640, comment un roi d'Angleterre très anglicisé peut-il gouverner facilement de loin, par plume, l'Écosse et l'Irlande?
Ben, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien, surtout dans le cas de l'Écosse, puisque les Écossais, effectivement, admettent assez mal ces ordres qui viennent d'en haut, et en particulier en matière ecclésiastique.
1637, vous les racontez, des émeutes en Écosse. 1638, une réunion d'Écossais avec le Grand Covenant, qui est un texte dans l'histoire
qui est un
constitutionnelle
texte
et parlementaire important.
Qui est un texte fondateur, parce qu'on a, à mon avis, déjà l'ébauche de ce qui va se produire avec la Révolution américaine, c'est-à-dire ces Écossais qui disent, pour la première fois dans l'histoire, à mon avis, « We the people », nous le peuple.
Et nous avons le droit de faire une guerre, si nous la considérons, comme sainte et juste. Et nous en arrivons à cette situation très difficile pour le roi, que décrit ici une caméra Explore le temps, qui a été diffusé en direct à la télévision.
Très bonne émission.
Dans le rôle du grand conseiller Strafford de Charles Ier, c'est William Sabatier. Et dans le rôle du roi, c'est Michel Bouquet.
Il faut en finir. Je n'ai plus un penny. Je vais avoir la guerre, Strafford. La guerre contre les Écossais, contre mes sujets d'Écosse.
Cela, ce n'est plus de ma faute, mais de la vôtre, mon cher archevêque.
De ma faute?
Oui, parce que vous avez voulu imposer aux Écossais le rite anglican. Ce sont des réformés. Ce n'est déjà pas si mal. Il pourrait être catholique.
L'Église d'Écosse n'est pas réformée, elle est déformée.
Messieurs, messieurs, je vous en prie, le problème n'est pas là. Je vais avoir une armée à payer. Or, je suis pauvre. Tragiquement pauvre.
Je vous ai fait venir, Strafford, pour que vous me trouviez de l'argent.
Alors, je ne vois plus qu'un moyen, sire. Le Parlement.
Quoi ? Rappeler le Parlement ?
Oui, rappeler la Chambre des Lords et celle des communes.
Vous me la baillez belle. C'est cela, votre conseil ? Passe encore pour les Lords. Mais ces gens des communes, ces insupportables bavards, dont j'ai eu tant de mal à me débarrasser il y a 10 ans.
Point de parlement, point d'argent aussi.
Et en 1640, il va avoir, ce roi, non seulement un, mais deux parlements. Le parlement court, qu'il va dissoudre, le parlement long, qu'il ne pourra certes pas dissoudre. Ces insupportables bavards. Vous reproduisez des extraits du grand discours du leader, Pym, avril 1640, qui dit des choses fortes.
Oui, on voit effectivement en 1640 ce parlement qui est convoqué. Pourquoi ? Parce que le roi se tourne vers le pays afin d'avoir de l'argent pour faire la guerre aux Écossais. Et évidemment, les parlementaires ne l'entendent pas de cette oreille-là. Non pas qu'ils ne veuillent pas donner de l'argent pour faire la guerre, mais ils demandent en échange d'avoir un droit de contrôle sur la politique qui est menée. Et John Pym, qui est véritablement le leader, on dirait à l'heure actuelle, de la Chambre des communes, qui profite de cette occasion pour expliquer que le Parlement a un rôle essentiel dans le pays, qui n'est pas uniquement une espèce d'assemblée qu'on peut convoquer quand on le souhaite pour avoir de l'argent.
Donc il est à la République, explique Pym. La République, c'est le bien commun, ce que l'âme est au corps.
Le mot République est déjà utilisé, ce qui est très intéressant. On n'est pas encore en République au sens où on le sera après 1649, mais il y a déjà cette idée d'un bien commun, et ce bien commun, il se réalise par le Parlement.
Les Écossais, incorrigibles Écossais, passent la Tweed. Et il leur faut beaucoup d'argent pour stationner. Ils disent, on veut bien ne pas aller plus loin, mais...
Là où il y a les Écossais, il y a toujours de l'argent.
Oui. on demande de l'argent pour stationner. Et quant aux Irlandais,
Là, il y a moins d'argent, ouais. mais il y a quand même un certain nombre de revendications, parce que la situation de l'Irlande est une situation explosive depuis la fin du XVIe siècle et depuis le début du XVIIe siècle. Vous savez qu'on a chassé un certain nombre de catholiques irlandais de leur terre, ou du moins on a essayé de les chasser et de les maintenir à ce moment-là uniquement sous la direction de seigneurs qui étaient des seigneurs protestants. Et donc, il y a une insurrection contre les protestants qui se produit en novembre 1641 et qui va véritablement être l'étincelle d'où va sortir la Révolution anglaise. Donc la Révolution anglaise, elle éclate en réalité en Écosse et en Irlande.
Et après un massacre en Ulster, déjà, votre livre met l'accent sur ces balises juridiques. Un grand texte, vindicatif peut-être, mais qui va avoir une grande fortune historique, la Grande Remontrance.
Oui, la Grande Remontrance, qui est un des textes fondateurs du droit constitutionnel anglais, auquel on fait encore référence. Quand on prend évidemment les circonstances précises où ces débats ont lieu, on a l'impression quand même que ce ne sont pas des idéaux très nobles qui nécessairement éclairent les consciences des Anglais. Je veux dire, il y a beaucoup de haine du papisme, de rejet de l'Irlandais. Ce ne sont pas toujours des nobles causes qui sont derrière la Révolution anglaise. Je crois qu'il faut bien le savoir. Mais ceci dit, c'est quand même un tournant dans la mesure où effectivement le Parlement ose s'adresser directement au roi et, disons les choses, il tente à prendre de plus en plus le pouvoir.
Et quand le roi voudra venir en personne arrêter quelques leaders, comme on dirait aujourd'hui, du Parlement, eh ben il se heurtera à bien des difficultés et jamais plus, après janvier 1642, un roi ne pénétrera dans l'enceinte des communes.
Oui, à l'heure actuelle, vous savez que la reine ne prononce pas son discours à la Chambre des communes, mais à la Chambre des Lords, et qu'on fait entrer les membres de la Chambre des communes.
En 1642, au fond, c'est la dernière ligne droite avant le conflit armé, qu'on ne va pas, si vous le voulez bien, comme vous le faites dans votre livre, raconter par le détail, depuis le premier affrontement militaire d'octobre 42. Juste ceci quand même pour bien marquer ce que sont les forces en présence. Du côté des puritains et des parlementaires, un extrait de l'émission de télévision Les Grandes Batailles du Passé.
On ne s'y trompe pas. Cette guerre n'est pas l'affaire du peuple, mais celle des notables. Ce sont des gens d'un certain standing financier qui ont une dignité matérielle et souvent intellectuelle, par exemple celle de la famille très évoluée du jeune Milton, le futur poète. Ils sont riches, ils participent au commerce des gros marchands de la cité, et il est très intéressant de voir que dans la liste des actionnaires des grandes compagnies commerciales, ce sont les membres des communes qui sont les actionnaires pour la plupart.
Le choix n'est pas facile pour ces gentilshommes déchirés entre leur fidélité à la couronne, leurs convictions religieuses et leurs intérêts matériels. Comme ici, la famille du sieur Popham. Celui-ci a fini par prendre le parti du Parlement. Il a transformé son manoir de Littlecote en petite garnison. Et il a levé autour de lui, parmi ses gens, un régiment de fantassins et un escadron de cavalerie.
Ici Henri de Turenne et auparavant Olivier Luteau, historien, parle des notables. Mais vous insistez sur le fait, Bernard Cotteret, que peu à peu, les révolutionnaires, on peut les nommer ainsi, finissent par rassembler une armée de citoyens, une armée d'un nouveau modèle.
Ce qui est extraordinaire à la faveur de cette révolution anglaise, c'est qu'effectivement, au départ, il s'agit d'une opposition entre un parlement de notables, il faut bien le dire, et puis la couronne. Et petit à petit, le peuple auquel on va donner les armes va prendre conscience à son tour de son peuple et va défier, j'allais dire, la bourgeoisie. Enfin, c'est pour employer cette catégorie qu'on utilise de moins en moins de nos jours, mais qui a quand même un sens. Et donc, on a un élément populaire et radical qui va prendre le dessus, en particulier à partir de 1647, et Cromwell qui va à la fois s'appuyer sur cet élément populaire et qui va savoir le réprimer.
Alors Cromwell, il commence en commandant la cavalerie. On va le voir à l'œuvre face aux loyalistes. Les loyalistes, qu'est-ce que c'est, les partisans du roi militairement ?
Les loyalistes, au départ, évidemment, et comme on s'y attend, la cavalerie royaliste est nettement supérieure à la cavalerie parlementaire, parce que le Parlement sont essentiellement des fantassins, évidemment, ces gens du peuple. Et le grand mérite de Cromwell, ça va être d'organiser, qui lui-même aime les chevaux, enfin on peut le dire, il lit la Bible et il aime les chevaux, c'est ça, ce sont ses deux principales caractéristiques, et donc il va savoir constituer une cavalerie, et c'est là que le Parlement va retourner les choses et que les batailles vont être gagnées désormais par Cromwell.
Et la bataille décisive, dit-on, c'est Naseby, le 14 juin 1645, toujours l'émission d'Henri de Turenne.
Cromwell, après avoir mis en fuite les escadrons de Langdale, vient tomber sur le flanc des fantassins du roi. Enfoncés, encerclés, ils vont pourtant se battre jusqu'au bout. Tout puritain qu'il soit, les soldats du Parlement se précipitent alors sur les équipages du roi pour piller et violer. Les femmes des officiers offrent leurs bijoux en échange de la liberté, mais en vain. Les vainqueurs sont déchaînés. Et tout y passe. Les bagages, les cantinières, les filles à soldats. Prenant ces pauvres femmes pour des catholiques irlandaises, les puritains sont pris d'une rage meurtrière. Ils assassinent les unes et marquent les autres au poignard, comme on faisait aux prostituées. Dans les bagages du roi, les parlementaires découvrent aussi des documents compromettants qui révèlent les tractations secrètes de Charles Ier avec les catholiques irlandais et avec la cour de France. Une trahison qu'ils ne lui pardonneront jamais.
The most interesting thing about King Charles I is that he was 5'6" tall at the start of his reign, but only 4'8" tall at the end of it.
Les Monty Python, vous les avez reconnus, pensent que le plus intéressant dans l'époque, c'est le raccourcissement à venir de la taille du roi, 1m67 à 1m42. Tout de même, il y a Cromwell.
Because of
Ireland, Cromwell, Lord Protector of England,
Puritan,
born in 1599 and 1658,
September,
I was at first
only
MP for Huntingdon,
but then
he led the Ironside Cavalry at Marston Moor in 1644 and won. Then he founded the new model army, and praise be, beat the cavaliers at Naseby, and the king fled at north like a bat to the Scots.
But under the terms of John Pym's solemn league and covenant, the Scots handed King Charles I.
Ooh. Charles was sentenced to death, even though he refused to accept that the court had jurisdiction.
Say goodbye to his head.
Oh, King Charles laid his head on the block.
January 1649.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Après les Monty Python, l'interprétation de la Révolution anglaise, c'est un livre qu'il publie chez Perrin, de Bernard Cotterêts, l'invité de la marche de l'histoire. Oui,
j'apprécie beaucoup les Monty Python également.
Qui raccourcissent l'histoire. Alors, ils expliquent que Charles Ier, bientôt après cette bataille de Naseby, n'est plus qu'un roi errant, qu'il est prisonnier des Écossais, qu'il est méchant. Le livre aux Anglais en 1647, et puis ils avancent très 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 vite. Nous, on va, si vous le voulez bien, marquer un temps d'arrêt, Bernard Cotterêts. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que sont ces puritains qu'on dit tête ronde. Ce sont les indépendants qui prônent l'autonomie, l'auto-lecture. Et ça va avoir un rôle très important dans l'émancipation politique.
Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque vous enlevez toutes les contraintes qui pouvaient peser sur les fidèles en matière ecclésiastique, je veux dire essentiellement, il est évident que vous allez avoir une espèce d'éclatement, et c'est ce qui se produit à ce moment-là, ce qu'avait bien noté Olivier Luteau, dont il a été question tout à l'heure, c'est que on va avoir un nombre extraordinaire d'idées qui vont être émises, souvent par des gens qui viennent du peuple, véritablement, même s'ils savent lire et écrire, parce qu'il y a quand même un excellent taux d'alphabétisation en Angleterre au XVIIe siècle. Et donc,
mais les puritains, eux, sont ils sont liés. Bourgeoises, comme vous diriez.
Oui, en même temps, ils sont liés, j'allais dire, à cette alphabétisation du peuple. Sans alphabétisation, il n'y aurait pas eu de puritanisme, il n'y aurait sans doute pas eu de protestantisme non plus. Et donc, c'est ce qui permet aux gens de prendre la parole, d'exprimer des thèses, et il faut bien le voir, des thèses contradictoires. C'est-à-dire la question que pensent les puritains ne peut pas appeler de réponse simple, parce que ça dépend des puritains. Vous savez ce qu'on dit des protestants, et qui me paraît très juste dans le cas des puritains, on dit deux protestants, trois églises. Et en ce qui concerne les puritains, je veux dire, ce constat est encore
Mais
plus fort.
Chacun d'entre eux a la conviction d'une élection. Cette élection lui communique une assurance qui lui permet une autonomie.
Oui, alors ce qui est très beau
la conduite politique et religieuse.
Ce qui est très beau dans la confession de foi de Westminster, qui est la confession de foi des puritains, dans cette confession de foi, on reprend la question effectivement de la conscience, et on survalorise presque la conscience individuelle. Et je crois que le progrès du puritanisme s'est accompagné effectivement d'une valorisation de la conscience, de l'autonomie des sujets, mais qui dit autonomie des sujets dit évidemment aussi des possibilités de conflit entre eux.
Alors deux protestants autonomes égale trois courants. Guizot, au XIXe siècle,
qui était
historien
protestant
et homme politique libéral et protestant français, disait que il y avait quand même à la gauche des puritains, je mets tout ça entre guillemets, des brouillons turbulents, mais qui étaient des honnêtes gens. Alors parmi eux, les niveleurs. Les niveleurs, c'est aussi le titre d'un livre qui leur est consacré par Olivier Luteau. Ce sont des artisans qui se demandent, mais quand Adam et Ève bêchaient et filaient, il n'y avait pas de propriétaire.
Les puissants doivent être puissamment punis, car les péchés des gouvernants sont doubles et inacceptables. Voleras-tu, toi qui commandes aux autres de ne pas voler ? Seras-tu oisif, toi qui commandes aux autres de travailler ? Seras-tu fier, toi qui enseignes aux autres l'humilité ? Mais ces riches et astucieux voleurs, qui n'opèrent pas au bord des chemins pour s'emparer des bourses, ni ne se faufilent par les fenêtres, ayant trouvé une façon plus rusée, plus impie, de voler que celle des pauvres ignorants, ils se croient en sécurité. Puisque la loi et le bourreau leur sont asservis et que l'on n'ose pas les pendre, ils se font donc voleurs par loi du Parlement, tout en se faisant appeler gracieux seigneurs, donc n'étant pas des voleurs. Mais que ces astucieux voleurs réfléchissent qu'un beau jour, tous les écrits qui ignorent la charité seront brûlés. Wallin.
Alors ce Wallin, il va très en amont de la common law qui crée les libertés anglaises et qui daterait d'avant la conquête, d'une certaine manière. Lui, il remonte au droit naturel.
Oui, il y a chez certains d'entre eux, comme Wallin, dont vous venez de parler, il y a une volonté, effectivement, de remettre en cause assez radicalement les inégalités entre les hommes. On a quelque chose qui anticipe Jean-Jacques Rousseau, je crois.
Les niveleurs, le mot, dites-vous, apparaît en 1647. En 1648, nul ne sait quelle forme va l'emporter, la monarchie, l'aristocratie, la démocratie, un petit courant que vous venez de décrire. Je reviens pas au Monty Python, mais ils disent qu'il y a une seconde guerre civile. C'est embêtant, ça, d'avoir juste 30 secondes pour la résumer.
Elle est plus courte et qu'elle a été perdue par le roi encore une fois.
Quel idiot, disent les Monty Python. il s'était extrait de sa prison, il était allé jusqu'à l'île de Wight et il va de nouveau perdre.
Il a une certaine allure.
Évidemment.
Il a une certaine allure dans la défaite.
Cambré sur ses ergots, le voilà maintenant convoqué à un procès. C'est toujours Michel Bouquet, pas encore raccourci, et en face, un procureur, François Mestre.
Charles Stuart, roi d'Angleterre. Les communes d'Angleterre, assemblées en parlement, profondément pénétrées du sentiment des calamités que l'on a fait tomber sur cette nation, et dont vous êtes considéré comme le principal auteur, ont résolu de vous mettre en jugement. Et dans cette intention, ont constitué cette haute cour de justice devant laquelle vous êtes amené à comparaître.
Je voudrais savoir par quel pouvoir je suis appelé ici.
Mais monsieur...
Rappelez-vous que je suis votre roi, votre roi légitime. Songez quel péché vous amassez sur votre tête, quel jugement de Dieu vous appelez sur ce pays. Pensez-y bien, je vous le dis. J'ai une mission que Dieu a fait arriver en mes mains par une ancienne et légitime succession d'aïeux. Je ne la trahirai pas au point de répondre à une autorité nouvelle et illégitime.
Elle vous requiert, au nom du peuple d'Angleterre, dont vous avez été élu roi, de répondre.
Non, monsieur ! Cela, je le nie. Je vous dis que l'Angleterre n'a jamais été un royaume électif qu'elle est depuis près de 1000 ans, un royaume héréditaire.
Est-ce ce procureur que Charles Ier va toucher à l'épaule du pommeau de sa canne ?
Oui, Charles Ier, comment peut-il essayer de rétablir la hiérarchie lorsqu'il paraît devant la cour ? Eh bien, il a deux façons de le faire. La première, c'est qu'il garde son chapeau vissé sur la tête, ce qui veut dire qu'il ne reconnaît pas l'autorité du Parlement quand il s'agit d'être jugé, lui, le roi. Et deuxièmement, il a effectivement sa canne à pommeau d'argent. Et donc, il se déroule quelque chose d'ahurissant à ce moment-là. C'est que le pommeau d'argent se dévisse de la canne et qu'il tombe à terre et que personne n'est là pour le ramasser.
Oui, mais enfin, le procureur, il a quand même senti à un autre moment le son
d'une petite tape sur l'épaule. Une petite tape.
Bon, alors on sait, les Monty Python nous l'ont dit si on l'ignorait, comment se finissent les choses. On ne peut pas s'empêcher, rétrospectivement, de faire la comparaison avec le procès de Louis XVI, où Louis XVI fait davantage profil bas.
Oui, je crois, enfin personnellement, s'il faut, entre les deux, je choisis Charles Ier, pardonnez-moi de vous faire cette confidence, mais je suis un vieil anglophile, donc je trouve toujours que les Anglais sont meilleurs que nous. En particulier, je trouve que la monarchie anglaise, d'ailleurs qui est toujours là, accessoirement, s'en est mieux tirée que la monarchie française.
Oui, mais enfin, Charles Ier, il n'a pas compris grand-chose, parce que quand il est amené devant l'échafaud, il ne peut pas s'adresser à la foule. Guizot raconte qu'il tient donc un petit discours aux bourreaux, et il leur dit... Le mépris des souverains est la vraie cause des malheurs des peuples, lesquels devraient donc renoncer à avoir quelque part que ce soit au gouvernement.
Oui, il continue effectivement à maintenir ses principes et il arrive, enfin ses partisans transforment sa mort en une sorte de victoire puisqu'elle va être reprise et commémorée de multiples fois jusqu'à
beaucoup plus que le 21 janvier en France.
Du siècle,
enfin. Et puis il faut terminer quand même en disant qu'une fois de plus les Écossais sont mécontents
parce qu'ils sont jamais contents les Écossais
partisans de l'exécution du roi Charles Ier. Ils sont jamais contents, ils vont le manifester. Pourquoi vous dites je le crains?
Parce que
vous êtes vraiment anglophile.
Oui, et puis je crois au Royaume-Uni. Oui. Je suis partisan du Royaume-Uni, je peux vous le dire.
Merci à vous Bernard Cotteret. Alors il faut que je fasse quelques annonces. Nicolas de Morant, et non pas à Édimbourg, mais à Londres, ce jeudi et ce vendredi. Deux émissions consacrées aux résultats des élections britanniques. Il faut que je cite de nouveau La Révolution anglaise, votre livre chez Perrin. Et puis, puisqu'on fait sans cesse la comparaison entre la Révolution anglaise et la Révolution française, il faut que je dise qu'à Aix-en-Provence, lundi prochain, dans un immense concours de peuple, cours Mirabeau, avec quatre comédiens du français, nous restituerons deux débats auxquels a participé le député d'Aix-en-Provence. C'est lundi à partir de 19h, 19h30, 20h, vous pouvez venir, parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette grande réunion. Comment faire durer l'amour? Ce sera un peu le thème d'Aix-en-Provence. Et vous, Mathieu Vidard?
Ah ben c'est même carrément le thème du dossier de la tête au carré, Jean, dans un instant. S'aimer pour la vie, les neurosciences ont des choses à nous dire.
Oui, mais enfin, je vois en photo sur le site deux vieillards qui avancent, appuyés sur une canne, sur un long chemin.
Ça fait rêver, non?
Oui. Merci à vous, Mathieu. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Franck Olivard avec Henri Bérec à la technique.